Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc la salle est quasiment pleine. Nous sommes réunis désormais pour interviewer deux auteurs, Claude Vautrin, Laurent de Affringue, qui donc se partagent cet ouvrage intitulé Franc-maçon, on le devient. Ça laisse à penser, bien évidemment, que l'un et l'autre sont francs-maçons et qu'ils vont parler dans ce livre de ce qu'ils connaissent déjà pour celui qui est entré en maçonnerie pratiquement au même instant que moi. Je parlais de Claude. C'est effectivement toujours un plaisir d'avoir à les faire parler d'un tel ouvrage. Et quant à Laurent, eh bien, il se trouve que c'est mon filleul, donc on est pratiquement en famille maçonnique ce midi. Donc, à le lire, car je vous rassure, je l'ai lu et relu tout de même, ça me paraissait quand même important, sachant qu'il me fallait en parler aujourd'hui. À le lire, ça m'a rappelé un roman ou une nouvelle que j'ai beaucoup appréciée de Christian Jacques, Le moine et le vénérable, où on trouvait deux protagonistes durant la dernière guerre mondiale, l'un religieux, moine, et l'autre vénérable maître d'une loge parisienne particulièrement ésotérique. Et c'est un discours très intéressant que de ces deux hommes en captivité en Allemagne à l'époque, qui échangeaient sur leurs valeurs et qui se rendaient compte au fil des discussions des rapports très forts qu'ils pouvaient avoir et des convergences qu'ils avaient au niveau de leur engagement réciproque. Et en parlant d'engagement, on a aujourd'hui l'engagement conjoint de Claude et de Laurent sur ce livre qui est paru depuis quelques semaines maintenant. En introduction, j'aimerais savoir quelle a été votre démarche, et ce afin d'écrire à deux voix un tel ouvrage.
Laurent, puisque c'est toi qui as eu l'idée.
Merci mon Claude. D'abord, un grand merci à tous d'être là. J'ai pas trop l'habitude de me retrouver de ce côté-là de la scène. Je suis un petit peu ému quand même. Je vais essayer d'être clair dans mes propos, mais bon, si je divague un peu, faudra pas trop m'en vouloir. Alors, l'idée de ce livre, effectivement, elle est venue suite à mon parcours maçonnique. Et je me rappelle très bien de l'anecdote. Un jour, on était sur les parvis, donc devant, pour les non-initiés, et j'étais voir mon frère Claude et je lui dis, écoute, voilà, il y a beaucoup de littérature sur la maçonnerie, on trouve beaucoup de livres, mais finalement, on trouve assez peu de livres où on nous dit clairement ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a une littérature maçonnique pour les maçons, mais je trouvais qu'il manquait peut-être un maillon qui permettait un petit peu de dire, voilà, ce qu'on y faisait, qu'est-ce qu'on venait chercher... pourquoi la maçonnerie et casser aussi quelques idées reçues. On pourra en reparler un petit peu plus tard, je pense. Et finalement, donc, j'étais voir Claude et je lui ai présenté l'idée. Je lui ai dit, je pense que ça pourrait être intéressant. Un dialogue entre un maître qui a déjà plus de 30 ans de maîtrise, donc avec tout le parcours maçonnique, le vécu maçonnique, et puis de l'autre côté, on va dire tout jeune maître, donc qui a encore énormément de choses à apprendre, et qui finalement voudrait essayer de confronter un petit peu son point de vue, qu'il soit maçonnique ou profane, avec un maître à penser qui est Claude, qui m'accompagne depuis mes premiers pas en maçonnerie. Donc c'était là, on va dire, la plus grande preuve de fraternité, puisqu'il n'a pas hésité une seconde, et il m'a dit que c'était une excellente idée. Voilà mon Claude.
Et donc l'idée tombait bien puisque à mon âge, vous voyez, j'ai des petites barbiches blanches, je suis arrivé à un moment où j'ai envie de transmettre aussi. Donc le terme de transmission est quelque chose d'important pour moi et pour le franc-maçon que je suis. J'avais déjà écrit chez ce même éditeur, Grand Reporter, Le Pas de Côté, où je transmettais sur mon vécu professionnel, en même temps de grand reporter, mais aussi de citoyen conscient de ce qui l'entoure. Et là, l'idée m'a fortement convenu, puisque Il n'y avait pas d'enjeu. Ce que nous disons dans ce livre, d'autres frères le diraient différemment. Ce qui était important pour nous, c'était de montrer qu'une franc-maçonnerie sait être vivante, c'est-à-dire qu'elle est en capacité de se confronter, dans le bon sens du terme, le sens positif du terme et étymologique, au monde. Et c'est important parce que il y a 2 jours, on apprend qu'en Italie, le pouvoir naissant est en train de dire qu'un franc-maçon ne peut pas être membre de son gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de retour de ces vieux démons, de ces chasses aux sorcières, qui doivent aujourd'hui nous interpeller. Et écrire ce livre, c'est prendre un risque, mais c'est prendre un risque calculé pour dire les choses en notre âme et conscience et à partir d'un vécu. Donc en fait, le livre est structuré de cette façon-là. Sur chaque thématique, il y a une entrée en matière qui est véritablement sociétale, volontairement sociétale, et ensuite s'ouvre le dialogue qui aborde la question de nos outils, des symboles, etc., qui font qu'on est en capacité peut-être de penser par soi-même. Voilà, l'idée, c'est un peu ça.
Merci Claude de ces précisions qui sont fondamentales. Effectivement, la transmission est quelque chose que tu connais bien et que tu nous as aussi fait partager au fil de ces années. Abordons, si vous le voulez bien, tous les deux, les valeurs qui sont les nôtres.
Oui, alors peut-être parler du titre aussi.
Hein. Bien sûr.
Alors c'est peut-être un peu, on ne naît pas quelque chose, on le devient, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein. c'est vieux comme le monde. Nous on fait référence à Spinoza dans son écrit L'éthique de 1677 où il exprime ce propos, on ne naît pas citoyen, on le devient, mais la paternité revient à Pindare, hein, qui est un poète grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, par rapport à Pindare, nous ne sommes rien, évidemment. Cette continuité, là, lui disait, deviens qui tu es. Il parlait à Héron Ier, le tyran de Syracuse, qui était un athlète renommé et participait aux Jeux Olympiques. Il disait, deviens qui tu es quand tu l'auras appris. Et ça, on aurait pu le rajouter, parce que cette portion de phrase est essentielle dans notre vie, dans notre réflexion de franc-maçon. Nous cheminons, d'ailleurs la photo de la couverture est un chemin, hein, un chemin pierreux, c'est-à-dire avec des obstacles. Nous cheminons, mais avant tout pour nous découvrir nous-mêmes et à travers l'autre. Donc les valeurs, c'est ça, c'est la première valeur qui me paraît essentielle, c'est d'être à l'écoute, d'être en capacité d'écouter l'autre. Première, on en a d'autres, mais Laurent.
Oui, complètement, et puis c'est vrai que on vit dans une société aujourd'hui où l'écoute est relativement peu présente. Là, on découvre une méthode, on découvre des outils, une certaine philosophie de vie également, et c'est vrai que ce sentiment d'écoute, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait on apprend énormément en écoutant, quoi. Et cette transmission, cette volonté de se mouvoir, elle se fait donc vraiment progressivement, et c'est pour ça que l'idée effectivement de la pochette avec ce chemin et ces obstacles, oui, parce qu'effectivement c'est pas un long fleuve tranquille. Et ça nécessite effectivement des valeurs qui nous sont chères. Alors elles ne sont pas exclusives à la franc-maçonnerie, hein, mais ce sont des valeurs qui pour nous sont le socle, font partie du socle, et dont on prend connaissance, je dirais, petit à petit. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui monte crescendo et qui finalement, et c'est ce qui est surprenant aussi, ce qui me surprend toujours aujourd'hui, c'est que finalement, peu importe le nombre des années, on se rend compte que c'est toujours cette soif d'apprendre et de connaissance, de transmission, comme tu disais tout à l'heure, Claude. C'est vraiment ça, en fait.
une des valeurs essentielles, enfin, à mon sens aussi, c'est ce fameux mot de fraternité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la fraternité, quand on sait que ce terme est utilisé, voire galvaudé? On parle des frères d'armes, on parle des frères de la côte, des pirates. On parle de frères de lait, de sang. On parle d'une fraternité qui peut être islamiste. Donc, voilà, ce terme est là. On parle même de frères ennemis, parfois, depuis l'aube de l'humanité. Alors, ça nous amène à penser ce qu'est la fraternité. Alors, pour moi, la fraternité, c'est... Je le mets en relation avec le terme de solidarité. C'est Che Guevara, vous connaissez ? Ici, on en parle des fois. Il disait, être solidaire, c'est courir les mêmes risques. Donc le premier risque qu'on a à cultiver la fraternité, c'est justement de se mettre en relation à l'autre, prendre le risque de remettre en cause ce qu'on est soi-même. Et ça, c'est comme ça qu'on apprend. On revient au terme que j'évoquais tout à l'heure de Pindare, le poète. La fraternité, c'est aussi partager un socle commun de valeurs. Alors, les valeurs, on l'a dit, hein, c'est la bienveillance, c'est l'aptitude à apprendre, à se mettre en capacité d'écoute pour apprendre, pour connaître. C'est bien sûr la liberté. Et c'est cette intégrité qui me paraît importante, c'est-à-dire qui pousse l'homme, on dit souvent dans les rituels, sont là pour ça aussi, un franc-maçon ne meurt pas à genoux, il reste debout, des pieds en espagnol, hein, mon frère Christian. Donc nous sommes là pour rester debout, quelles que soient les circonstances. Et donc ça nécessite le respect de l'autre. Et ça, c'est un mot qui me paraît essentiel, ce terme de respect de l'autre, parce que quand on respecte l'autre, on se respecte soi-même aussi. En latin, le mot respect, c'est de respectus, c'est aller au-delà du premier regard. Et ça, c'est important. Alors moi, j'ai essayé de le vivre dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire quand je suis face à un événement, je ne me contente pas de regarder le fait divers, et de le raconter, j'essaye de comprendre pourquoi il y a ce fait divers. Forcément, ce fait-là s'inscrit dans une histoire. Et c'est parce qu'on a la connaissance de ce qui a permis ou ce qui a causé ce fait, qui a généré la maturité de ce fait, qu'on peut, à la limite même, regarder l'avenir. Et donc ce mot « respect » est hyper important parce qu'il nous met en mouvement. Voilà encore un terme... qui m'est cher, je crois, ici, et qui est celui de mouvement et de cette capacité à regarder le monde et l'autre en quatre dimensions. Quoi. C'est-à-dire pas se contenter de dire « il a le crâne rasé, il a une belle moustache », mais essayer de comprendre qui il est. Et c'est comme ça qu'on peut se découvrir soi-même. Et c'est le travail qu'on fait ici.
Ouais. C'est vrai que la fraternité... Alors, on la voit sous les frontons des églises, on en parle beaucoup, c'est un peu un idéal, l'idéal républicain. Ça peut même dépasser le cadre purement républicain, puisqu'en fait c'est une valeur qui est presque théologique. Mais en maçonnerie, et c'est ce qu'on a, je pense, voulu expliquer dans le livre, c'est que là encore, c'est une forme d'alchimie. C'est-à-dire qu'on arrive là, au milieu d'un groupe où, effectivement, ben, on connaît très peu de monde, à part bien souvent son parrain et peut-être un ou deux personnes qu'on a pu croiser. Et là, on découvre un monde de bienveillance, d'écoute, de partage, d'accompagnement. Et tout doucement, on se met à réellement s'attacher aux autres et à prendre conscience que le terme de frère... a une valeur vraiment fondamentale et qu'elle est vraiment galvaudée, c'est ce que tu disais, c'est une valeur qui est galvaudée. Là, nous, on arrive justement au sein de ce temple et dans cette loge à développer vraiment des sentiments d'amour. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est la clé. Je pense que l'amour qu'on a envers les uns envers les autres, cette bienveillance, cette écoute, comme tu disais, Claude, ce respect des uns des autres, c'est-à-dire le respect des opinions, le respect... on n'est pas toujours d'accord, hein, je veux dire. Et au contraire, c'est ça qui fait, on va dire, le débat et la richesse de nos travaux. Mais ça crée un véritable ciment. Et ce ciment qui nous lie les uns aux autres, c'est quelque chose, alors à titre personnel, hein, je parle là, que j'ai découvert. Je l'ai découvert parce que je n'avais jamais ressenti une telle force, à la limite, et on va dire un tel sentiment d'apaisement. C'est-à-dire que quand on est entre nous ici, on coupe réellement du reste du monde, et c'est une façon de se ressourcer pour rester, comme tu dis Claude, une notion qui t'est chère, dans le mouvement. Et je pense que cet amour qu'on cultive les uns pour les autres, je pense qu'on le fait rejaillir à l'extérieur. Je pense, hein, ça faudrait peut-être demander à ma femme et mes enfants pour confirmer, mais je pense qu'il y a, on cultive l'amour et on ne le cultive pas, on ne s'arrête pas aux portes du temple. La vocation, ouais, d'aller plus loin.
Ce que tu dis là est hyper important, c'est-à-dire, effectivement, tout cela doit rejaillir dans le monde à l'extérieur. Et sinon, ça serait sans intérêt. Et tu me fais penser à un autre terme qui est important, c'est qu'à travers cette fraternité, enfin ces valeurs qu'on actionne, l'idée quand même centrale de tout ça, c'est de trouver sa propre liberté. Et Dieu sait si dans le monde aujourd'hui, un tantinet liberticide, l'expérience humaine qui est celle-ci est importante. Je reprends un propos de Jean-Paul Sartre, hein, qui disait « Autrui, c'est l'autre », c'est-à-dire le « moi » qui n'est pas « moi ». Et il ajoutait cette solidarité des libertés. La fraternité, c'est ça, c'est une solidarité des libertés. C'est surtout pas dogmatique, on est d'accord, est irréductible à toutes les relations violentes et aliénantes. Et je crois que dans le monde dans lequel on vit, les relations violentes et aliénantes, elles sont légion, elles sont courantes. Et trouver et pratiquer cette solidarité des libertés est quelque chose de très précieux qui peut rejaillir. Je peux citer l'exemple de ma relation avec les Mapuches et ces Indiens du bout du monde qui pratiquent cette bienveillance, cette solidarité, parce qu'il n'y a pas besoin d'être franc-maçon à la limite pour vivre ça. Sauf que nous le vivons, et c'est important, sans dogme, c'est-à-dire sans vérité acquise. C'est empreinte cette liberté. Et on a la possibilité, au bout du monde, de mettre ça en pratique. Et Dieu sait si les portes s'ouvrent vraiment grandes. Et ça, c'est hyper précieux. Enfin, moi, je ne mets jamais en opposition, effectivement, ce que je vis ici et ce que je vis à l'extérieur. Au contraire, tout ça, c'est dans ce cheminement, ce même mouvement.
Et je crois que c'est fondamental ce que tu viens de dire. Excuse-moi, Jacques, j'ai tout à l'heure. Ce que je voulais simplement dire, c'est que c'est ce point de vue que tu défends, cette façon dont on est tous plus ou moins en partage, un peu cette vision du monde. Et cette vision, cette main tendue vers le monde, elle se transmet. Moi, je peux dire que tu as participé, mon parrain a participé, d'autres frères que je vois en diagonale là-bas, Maurice, par exemple, ont participé à ce que... Si, Maurice. À ce que je pense qu'on s'ouvre vers le monde vraiment. Et on arrive peut-être avec... On vient quand même d'un monde profane, on vient d'un monde, on va dire, un peu égocentrique. Hein, c'est l'égocentrisme aujourd'hui. Et là, on découvre que non, il y a une autre vie possible qu'on peut apporter modestement sa pierre, à condition effectivement d'être à l'écoute, on en revient là, et effectivement d'avoir cette ouverture au monde. Et je pense pouvoir dire que ça, c'est la franc-maçonnerie et les francs-maçons, dont les anciens, hein, toujours la transmission, qui le transmettent aux nouveaux arrivants. Et ça se perpétue depuis maintenant 3 siècles quand même.
Bien, je pense que nous sommes effectivement plus que d'accord sur le fait que la fraternité est notre clé de voûte. elle nous dynamise, elle nous soutient et elle nous permet effectivement, je le confirme, de porter au-dehors du temple nos valeurs, si tant est que les gens nous reconnaissent comme porteurs de valeurs. C'est ce qu'on efforce ici ce soir de vous démontrer. Je regardais à nouveau cette couverture. Ça me fait penser à la lente ascension. Dans une quête, il y a aussi des moments beaucoup plus pentus. Est-ce pour arriver au Machu Picchu? Je ne sais plus, j'avoue.
Non, c'est une photo qui est prise au Cap Vert.
Au Cap Vert.
Lors d'une randonnée, comme ça.
Que Césaria Ivora me pardonne d'avoir volé.
J'ai vécu un moment important de ma vie et où cette relation à l'autre a été mise en pratique d'une façon très forte. À Mindelo, la ville de Césaria Ivora, c'était un dimanche, une petite place avec une église, de petites vieilles qui discutent sur un banc, des enfants qui jouent, et un jeune homme qui arrive et qui me menace d'un fusil, d'un revolver. Et ma réaction a été quelque part fraternelle, c'est-à-dire j'ai souri et je lui ai dit « Moi, je ne vais pas faire ça, rapaz. Tu ne vas pas faire ça, mec. » Et avec un sourire. Et en fait, l'éclat fut un éclat de rire. Et il est parti en courant, en riant. Voilà. Et je crois que cette intuition-là, elle s'est forgée ici aussi. Cette capacité à... Alors, peut-être que, voilà, j'ai eu de la chance ce jour-là, mais on est toujours quelque part responsable de ses actes et de ce qui nous arrive. Et ça, j'ai forgé cette... pas certitude, parce que nous n'en avons pas ici, mais voilà, une petite anecdote qui me rappelle cette couverture, puisque c'était au Cap Vert.
Voilà. J'ai bien fait d'en parler. Tout ce qui sous-tend aussi le travail que nous effectuons ici et sur nous-mêmes et ensemble pour porter au dehors ces valeurs-là est sous-tendu, pour ceux qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui, par ce que nous appelons des symboles. Laurent, si tu avais un symbole à me citer comme étant celui qui te paraît le princeps.
Alors c'est vrai que un symbole parmi l'univers maçonnique, c'est compliqué d'en sélectionner un. Je me rappelle toutefois de mon tout premier symbole. J'en avais reparlé avec Claude quand on a écrit le livre, qui était le fil à prendre. Je me rappelais effectivement quelque chose de tout à fait personnel, une relation que j'avais eue avec quelqu'un que j'avais, qui avait été très important dans ma vie. Alors par contre, celui effectivement où je me plonge peut-être le plus, il est juste au-dessus de vos têtes. C'est une voûte étoilée. Alors pour deux choses. La première chose, c'est parce qu'elle renvoie... Donc elle renvoie au cosmos, elle renvoie à l'immensité, elle renvoie au ciel, elle fait, c'est le rêve, c'est l'utopie. Et là, je vais faire un petit clin d'œil aussi, je suis particulièrement attaché à la personne qui l'a construite de ses mains. Donc je suis doublement attaché à ce symbole. Et c'est vrai que quand on est en tenue, bien souvent, quand on est dans une phase de construction ou dans une lecture de travaux, on m'a déjà, ce sont mes frères qui m'ont dit que j'avais souvent la tête effectivement je lève souvent les yeux à ce symbole là parce qu'il me rappelle peut-être aussi d'une certaine façon, je pense qu'il me rappelle qu'il faut être humble. Je sais que c'est une des valeurs
on va y venir
je pense après, voilà, mais je pense que voilà, moi ça a été peut-être un des symboles qui de temps en temps me rappelle à quel point je suis infime. Voilà, et que ma personne ne représente rien face à l'immensité des choses, quoi. Ce serait
alors
celui-là.
Tu regardes cette voûte étoilée et moi je la vois d'une autre manière, c'est vrai. Parce que le symbole, oui, c'est vrai, c'est le symbole, ça vient du grec, hein, symbolein, qui unit. C'est le contraire du diable d'ailleurs. Le diable, c'est ce qui désunit. Le symbole unit, mais il unit dans la diversité. C'est ça qui est intéressant quand on travaille sur les symboles, parce que c'est une confrontation d'expérience humaine, enfin de notre vécu, de notre relation à l'autre. Et j'ai toujours tendance à dire que c'est ni une bannière, ni un drapeau, un symbole. C'est tout le contraire. C'est un langage qui ouvre le champ de la pensée, c'est-à-dire qui nous rend libres, justement, parce qu'il nous fait penser, et qui dépasse le seul diktat des mots. On parlait des mots tout à l'heure avec le poète Richard Renier. Il était d'accord pour dire que il faut aller, bien sûr, au-delà des mots. Il faut travailler. Le symbole nous pousse au travail de la pensée. Et donc ça, c'est aussi important, plutôt que de s'accaparer des mots qui viennent de l'extérieur, de digérer plus ou moins bien. C'est construire sa pensée à travers l'autre, pratiquer la voie symbolique. Donc quelque part, c'est se refonder aussi soi-même. Alors moi, le symbole qui m'est cher, hein, c'est pas parce que je vous ai parlé de pistolet tout à l'heure, c'est la grenade, mais c'est pas la grenade qui explose, c'est la grenade qui est sur ces colonnes. Vous voyez, il y en a deux. C'est un symbole qui est fort parce que il exprime que nous ne sommes rien sans le tout. Dans ce fruit de la grenade, il y a des centaines de loges dans chaque loge, il y a une petite graine. Mais toutes les graines sont importantes pour constituer ce fruit, hein, dont la carapace est pas du tout digeste. Alors que quand vous pressez un jus de grenade, enfin, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est une boisson délicieuse, à la fois sucrée, mais en même temps avec une petite amertume qui fait que rien n'est lisse dans ce fruit. Il est constitué de différences. L'amertume, qui peut être la tienne, la mienne, la douceur que nous pouvons pratiquer. Donc la grenade, en plus, c'est le fruit symbolique de la fécondité, donc la fécondité de la pensée et de la vitalité. Donc tout ça m'importe. En plus, je ne suis pas le seul à le dire, puisque quasiment toutes les religions font de ce fruit un élément important de leur symbolique aussi.
Bien. D'autres symboles sont ici. Ce serait un peu trop long que de les aborder, et ça n'est pas le sujet de ce soir.
Un petit mot peut-être.
Oui, volontiers.
Le corbeau, par exemple. Le corbeau, chez nous, c'est noir. Hein, c'est le romantisme. Mais c'est un oiseau de mauvais augure. Et vous allez chez les Haïdas, au large de l'Alaska, dans l'archipel de la Reine Charlotte, les Haïda Gwaï, et cet oiseau est le mythe créateur chez eux. Voilà. Donc imaginez un bûcheron vosgien qui va travailler dans les forêts de ce nord canadien et qui se fait attaquer par un corbeau. C'est le début d'une nouvelle.
Non, c'est vrai que... Juste une dernière petite chose, Jackie, si tu veux bien. Le symbole a ce mérite de faire travailler l'individuel au service du collectif et dans le collectif. Effectivement, le symbole est tout sauf quelque chose qu'on maîtrise. C'est tout sauf quelque chose qu'on va pouvoir encadrer, finalement. On ne l'encadre pas. Il vous parle, puis il ne vous parle plus. Et on se replonge devant, et on le regarde, et il se présente sous un autre jour. Et ce qui est magique, également avec le symbole, et je pense que tu ne contrôleras pas, mon frère Claude, c'est que chacun a sa propre vision. Et qu'en fait, lorsque l'on débat d'un symbole, chacun apporte une pierre à l'édifice, un peu comme les petites particules de la grenade, pour arriver effectivement à un fruit, au sucre, effectivement, au sucré amer, mais un fruit fabuleux. C'est un petit peu ça. Et c'est là qu'on arrive à un moment donné, on arrive à ressortir avec ce sentiment d'avoir énormément appris, ce sentiment d'apaisement, l'égrégore. Ce qu'on vit, c'est l'égrégore, c'est-à-dire cette espèce d'apaisement de l'âme et cette sensation qui est difficilement d'ailleurs traduisible. Alors, il faudrait peut-être que tu m'aides à la traduire, celle-là, mon Claude, parce que j'ai un petit peu de mal. Ce sentiment vraiment de plénitude. On a l'impression d'avoir passé un niveau qui dépasse complètement les contingences matérielles, sociétales. Voilà. On est vraiment dans une toute autre dimension, et sous la voûte étoilée, ça porte encore un peu plus d'impact.
Alors, c'est pas toujours. Hein,
pas toujours.
C'est pas une secte, la Franc-maçonnerie.
Dieu merci.
Non, mais ouais. C'est vrai qu'on vit des états comme ça, un peu soufistes, parfois, mais juste pour conclure sur les symboles, ce qui est intéressant, c'est leur côté universel et intemporel, c'est-à-dire cette capacité à traverser le temps et à partager cette expérience de l'humanité dans la diversité. Et c'est ça qu'il faut peut-être retenir. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'habite quelque part.
Merci à tous les deux sur vos ressentis sur les symboles. Qui nous intéresse fortement, la clé de voûte, cette voûte étoilée, merci Jean-Claude, et ces grenades dont l'une a fait sourire un de nos amis, puisqu'effectivement elle a dû choir de cette colonne au moins une fois, mais la grenade est éternelle, tout comme la voûte étoilée. On a parlé de symboles, et moi ce qui m'a aussi interpellé dans ce dialogue de nos deux frères, Claude et Laurent, eh bien, ce sont les vertus maçonniques. Alors, il y a les vertus théologales, au dehors du temple, et puis il y a les vertus maçonniques. Est-ce qu'il y a des vertus maçonniques ? Il me semble que ça paraît évident à ceux qui connaissent un tant soit peu ce que nous vivons ici, peut-être moins pour ceux qui aujourd'hui nous rendent visite. Claude, as-tu une vertu à mettre en exergue ?
Le mot a été prononcé, alors c'est difficile de dire que c'est une vertu, puisque cette vertu, c'est l'humilité. Donc, et c'est vrai que dans un monde de stress, de paillettes dans lequel nous vivons, où il faut être star ou on n'est rien, qu'on soit sportif, politique, acteur, etc., cultiver l'humilité peut paraître suspect. Peut être considéré comme une sorte d'abandon de soi, de laxisme, de perte de dignité. Alors qu'au contraire, c'est pour moi, être humble, c'est un outil fabuleux, parce qu'il n'y a pas d'enjeu quand on est humble. On n'est pas là ni pour vaincre, ni pour perdre. On est là pour être. Je parlais de la grenade, je ne suis rien sans l'autre, et je me découvre avec l'autre, et pour se mettre en capacité d'écoute, il faut être humble. Il faut, Pierre Rabhi nous le dit quand il parle de l'humus, l'humilité, ça vient de ce mot humus, c'est ce qui permet à la vie de croître quelque part. Et j'aime bien rapprocher ce terme-là aussi de l'humour, qui est la même racine. Et quand on s'intéresse à ce mot d'humour, on met en relation l'humilité qui rime avec humanité, quelle belle rime, riche d'ailleurs, et l'amour. Donc être humble, c'est peut-être aussi être en capacité d'approcher cet amour. Voilà. Donc c'est, pour moi, c'est une vertu importante qui peut d'ailleurs aussi avoir une dimension sociale, sociétale, voire politique, même si on n'aime pas faire de la politique en maçonnerie, puisque au fond, la politique, c'est établir une vérité, et dans un monde en mouvement, pas en marche, hein, en mouvement. J'ai fait un peu de politique, mais excusez-moi. Dans un monde en mouvement, je rêve, moi, d'une sorte de croissance égalitaire, c'est-à-dire où chacun serait en capacité de grandir, mais dans une égalité qui ne serait ni un clonage comme on a tendance à vouloir que nous devenions, ni une standardisation de l'humanité. Croissance égalitaire où chacun pourrait s'exprimer et exprimer ses qualités profondes. Voilà, l'humilité, vous le voyez, n'est pas la passivité. Elle est affirmation de soi, au contraire. Affirmation de soi dans le respect de l'autre. Et c'est pour ça que je revendique fièrement, j'allais dire, même si le terme de fierté peut être un peu éloigné de l'humilité, je revendique fièrement cette qualité qu'il faut sans cesse travailler.
Ça me paraît évident, Claude, que cela fait vraiment partie du corpus des choses à acquérir, à reconnaître comme vital, à acquérir au fil du temps. Ça peut être long que d'intégrer cette notion d'humilité, et tu l'as bien résumé en disant que c'est sûrement un des chemins afin de mieux savoir aimer.
Tout à fait. Et c'est une qualité éminemment maçonnique, j'allais dire. Contrairement à tout ce qu'on peut lire comme littérature, c'est fou, c'est une littérature anti-maçonnique. Hein. Vous tapez maçon sur Internet, vous allez directement dans l'anti-maçonnisme, et de plus en plus aujourd'hui. Et cette qualité est éminemment maçonnique parce que, au fond, quand on rentre en maçonnerie, on ne rentre pas pour un plan de carrière. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. Le vénérable qui siège à ce poste, les 1 an, 2 ans, 3 ans, grand maximum. Et ça tourne. Et il n'y a pas ces enjeux de pouvoir qu'on peut trouver à l'extérieur. Et l'humilité nous permet de vivre ça avec force et en même temps d'apprendre à se connaître et éventuellement de se défier de soi d'ailleurs.
Laurent, à toi.
Oui, alors l'humilité n'était pas franchement réellement ma plus grande qualité, je vous l'accorde. On va être très clair. Donc quand je suis arrivé à la fraternité vosgienne, on va dire que c'était pas gagné. Alors Dieu merci, j'avais un parrain qui a toujours été très présent pour moi et un second et premier surveillant qui œuvre près de la porte, qui ont su me transmettre ces valeurs-là, et je crois que au contact justement les uns des autres et toujours dans cette fameuse transmission, parce qu'on pourrait faire un livre rien que sur ce qu'est la transmission en maçonnerie. Alors transmission n'est pas dogme, comme tu l'as dit, il n'y a aucune vérité. C'est vrai que c'est important de le souligner, pour nous ça paraît une évidence, mais il n'y a pas de vérité. En fait, on se construit soi-même à travers les autres. Et l'humilité, petit à petit, mais effectivement, c'est se rendre compte qu'on est loin d'être parfait. Moi, je le croyais en arrivant, j'ai vite déchanté. J'ai vite compris que c'était pas ça, malgré que de temps en temps, on me le rappelait à la maison quand même. Mais on va dire que j'avais pas... Oui, je pense que je suis arrivé avec un petit peu de conviction. Hein, j'avais un peu de connaissances, je pensais que ça suffirait. Je me suis même dit, tiens, même peut-être avoir des connaissances que d'autres n'ont pas. Je me suis rendu vite compte que, comme dit la Maxime, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et je ne sais rien dans le sens où tout peut se discuter, tout peut se nuancer. Bilan des courses, on arrive, alors on ne perd pas sa personnalité, ça c'est très important de le dire, parce qu'il faut rester soi-même. J'avais des directives à ce sujet précises. Rester soi-même, mais on sent quand même que petit à petit, on a tendance à s'ouvrir aux autres, qu'on a tendance à plus tenir compte, effectivement, de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent. Et petit à petit, on a une façon de raisonner qui permet d'être, à la limite, beaucoup plus, socialement, beaucoup plus ouvert, puisque forcément, on fait tomber ces barrières des certitudes. Et c'est petit à petit, encore une fois, le chemin, vraiment le chemin. Il faut du temps, et du temps, et du temps. Donc, la maçonnerie, c'est pas quelque chose de magique, tu l'as dit, Claude, c'est pas une secte, c'est pas un dogme, c'est pas un coup de baguette magique, c'est pas comme ça du tout que ça marche, il faut le dire. Il faut du temps, laisser le temps au temps. La patience, l'humilité sont des valeurs qui nous sont chères.
Et le travail aussi.
Et le travail.
Alors, le travail, oui. Alors, le travail,
je te remets sur les rails.
Tu me remets sur les rails. Alors, le travail, effectivement, alors c'est ça peut paraître paradoxal, parce que finalement, quel est l'intérêt de se réunir un soir pour travailler. On a tous une vie, on a tous une vie en dehors, on a des activités. Et finalement, on dit, bah tiens, j'en ai encore pas assez. Alors, je vais essayer de rentrer dans un ordre initiatique et puis je vais travailler. C'est pas franchement au départ quelque chose, c'est pareil, c'est pas un truc qui... Bon. Et on s'aperçoit petit à petit, le travail est le fondement, un des fondements de la maçonnerie, dans le sens où l'étude d'un symbole, des lectures, avec des orientations très diverses. Je prends par exemple, je vais prendre un exemple tout à fait concret. J'étais un piètre, bien piètre lycéen en philosophie. Je crois que j'ai dû assister à deux cours lors de mon année de terminale. Et il a fallu que j'arrive, en maçonnerie pour découvrir, en fait, la richesse de en fait, que pouvait apporter la philosophie. Donc en fait, on se met à travers des lectures, à travers des confrontations de points de vue. On finit par aimer ce travail, en fait. On glorifie même le travail. Pour nous, c'est dans le travail qu'on s'accomplit, c'est dans le travail qu'on grandit. Voilà, et je pense que c'est toute une vie et une façon de concevoir l'existence que de glorifier le travail. Alors aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas cette possibilité de le faire. Je parle dans le monde profane. C'est peut-être pour ça qu'on y attache, nous, une importance aussi fondamentale, d'ailleurs. Mon frère Claude.
Travail purement intellectuel, bien sûr. Ou pas que cela ?
Travail intellectuel, mais pas que cela. Je pense, enfin, je suis même sûr de côtoyer une spiritualité dans mon cheminement maçonnique. Une spiritualité qui n'est pas une spiritualité religieuse, mais qui est ce que Barbier, qui est un universitaire, nomme le sacré radical, c'est-à-dire trouver en soi ce qui peut nous faire avancer, ce qui peut nous permettre de nous épanouir et de côtoyer cet invisible, c'est-à-dire cet indicible. Le travail maçonnique ouvre des portes telles que celle-là aussi, c'est-à-dire ces portes de la verticalité. Quand je parlais tout à l'heure, un franc-maçon ne meurt pas à genoux, mais reste debout. Il est question de cette verticalité. Mais c'est une verticalité, une spiritualité qui est non seulement adogmatique, mais qui est très intime. Et là, on touche la question fondamentale du secret, qui est une sorte de tarte à la crème dans les médias, quand on parle du secret maçonnique, etc., mais qui est fondamental, puisque le chemin est avant tout intime. Et ce qui fait que nous changeons n'est pas forcément perceptible par l'autre, sinon dans peut-être des comportements qui changent, des manières d'être, une façon de s'exprimer, mais c'est très 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 fin comme ressenti. Et j'ai le sentiment personnellement de vivre une aventure spirituelle ici aussi. Ouais. Donc pas seulement intellectuelle, mais aussi d'un autre ordre qui nous échappe parfois.
Bien. Laurent, tu as quelque chose à ajouter ?
Oui, rajouter peut-être hors le coup aussi à une idée qu'on retrouve souvent effectivement dans la presse bon marché, dont je ne citerai pas le nom, et les divers articles anti-maçonniques qu'on peut lire assez facilement sur Internet. Alors, on taxe souvent la maçonnerie de bouffeurs de curés, d'anti-religieux, anti-cléricaux. Je voudrais juste dire que non, c'est pas ça du tout. C'est que nous, on a au niveau, je parle du Grand Orient de France, on laisse la partie religieuse, comme la politique d'ailleurs, comme mon frère Claude l'a dit, en dehors de cette loge. Par contre, on est totalement libre de vivre pleinement une religion. Mais là où c'est important, et là où je te rejoins, et tu le sais, c'est en fait c'est le côté spirituel en fait. Et la spiritualité, elle ne s'enferme pas dans le dogme. Il n'y a pas une obligation de pratiquer un dogme pour être quelqu'un de spirituel et être ouvert aux spiritualités avec un X et non à une, mais à plusieurs. C'est important de le dire parce que trop souvent encore, on entend ce genre de discours. Ah oui, mais les francs-maçons, adorateurs du diable, et je ne sais pas trop quoi, et on attend des trucs, on est quand même aujourd'hui, on va bientôt aller sur Mars, on a encore des gens qui pensent qu'aujourd'hui, en limite, on cracherait sur le Christ, quoi, sur une croix. Non, non, c'est pas ça du tout, et c'est vraiment, vraiment important de le dire. Les religions ont leur place, mais nous, on estime qu'on peut se construire, on peut débattre, en parlant uniquement de valeurs et non pas de dogmes. C'est vraiment le mot ici qui est pas prescrit, mais on va dire qu'il a sa place en dehors du temple et pas dans un temple maçonnique.
Donc je note que les francs-maçons sont déjà sur Mars.
Bientôt, parrain, bientôt.
Dans la Lune, souvent. C'est beau de rêver également, entre Soleil et Lune. Donc on a vu ensemble que le mouvement tel qu'il se traduit lors de nos travaux, qui est un mouvement vers une forme d'amélioration, de progrès, d'ascension vers quelque chose, vers l'égrégore, a-t-on dit, c'est en fait la motivation la plus importante, à savoir la quête. Et la quête, Claude, c'est quelque chose qui te hante dans beaucoup, beaucoup des ouvrages que certains ici ont lus déjà.
Oui, qui me hante, oui, qui me motive aussi. Alors, je parlais tout à l'heure de liberté. Je pense que c'est la première quête essentielle, c'est trouver en soi sa liberté qui nous permet de d'avancer vers ces territoires inconnus. Et c'est ça qui est important, c'est que la première liberté qui doit être celle de l'homme, c'est déjà de sortir du ventre de sa mère. Mais pour quel destin, pour quel chemin par la suite? Et c'est comme ça en permanence quand on regarde le parcours d'un être humain. Et l'idée, c'est donc de se mettre en danger, entre guillemets, d'aller à la découverte de ces territoires inconnus. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse quand je rentre dans le temple, quand je prends l'avion pour aller au bout du monde. C'est deux choses différentes, mais je sais que quand je rentre, je franchis la porte du temple, je ne suis déjà plus moi quelque part. C'est-à-dire, je sais qu'en sortant de ce temple, j'aurai déjà changé. C'est ça l'idée forte qui fait que 33 ans après, je viens encore. Parce que c'est ça, on y croit. Hein, on ne n'est pas franc-maçon, on le devient et on y croit. C'est-à-dire, sinon, ce serait du temps perdu, du travail pour rien. Donc savoir que 2 heures, 3 heures après, je vais changer, c'est déjà comprendre notre capacité à vivre cette liberté. Donc la quête de liberté, effectivement, qui est portée par une quête de connaissance. Mais qui n'est pas forcément une connaissance, on le disait, livresque, même si c'est très important, évidemment. Mais c'est la connaissance de l'autre, et c'est l'expérience aussi acquise. Je suis toujours assez sidéré quand on invite à un débat à la télévision des experts universitaires, par exemple, des experts de l'espionnage, c'est toujours les mêmes qui viennent. Mais quelle est leur expérience de la vraie vie? Moi, je souhaiterais qu'il y ait un expert, mais aussi quelqu'un qui vit le sujet qu'on aborde dans ces émissions. Et ici, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est des vies qui sont partagées, des vécus. Et c'est comme ça qu'on se transforme, qu'on arrive à se découvrir et qu'on vit cette métamorphose à travers une introspection en soi. Quoi.
Merci, Claude.
Et donc on est loin du mouvement dont on nous rebat les oreilles, qui est toujours négative, qui est toujours dramatique. Il faut les prendre en compte, hein, c'est sûr, mais se mettre en mouvement n'est pas forcément vivre un drame.
Au nom des deux auteurs, je tiens vraiment à vous remercier de votre venue nombreuse ce vendredi pour cette seconde session des Imaginales 2018. Merci à vous tous de votre présence. Merci.